Salut les extraterriens. Est-ce que vous prenez soin de votre épargne? Moi, j'ai eu la chance d'avoir un papa qui m'y a plongé tout de suite. Depuis tout jeune, j'ai appris à placer mon argent. Une autre activité que j'avais avec mon père, c'était de préparer le marathon. Et récemment, j'ai eu une réflexion que je voulais te partager. La course et le sport en général, c'est un peu comme l'épargne. Ça fait toujours peur au début, mais on ne regrette jamais d'avoir passé le pas. Plus on commence tôt, plus on est avantagé toute sa vie. Pour se lancer, le mieux, c'est d'avoir un plan et de s'y tenir dans la durée. Et enfin, pour réussir, il n'y a pas de secret, il faut être constant sur le long terme. Ça fait beaucoup de métaphores, vous ne trouvez pas? C'est pour cette raison que je voulais te présenter Quorum L'Épargne, notre partenaire. Quorum L'Épargne, c'est une entreprise dont la mission est de vous donner les clés pour naviguer dans le monde de l'épargne qui peut paraître complexe. Il propose des solutions d'épargne long terme et performantes qui sont à la fois transparentes, car c'est fondamental de comprendre où on place son argent, et accessibles, car certaines de leurs solutions permettent d'investir dès 50 euros. Donc c'est vraiment adapté à tout budget et on peut même y investir un petit montant pour se lancer. Bon, je vous rappelle qu'il faut toujours être vigilant et comme tout investissement, il y a toujours des risques. C'est également pour ça qu'il faut choisir un partenaire de confiance pour se lancer. Sachez que Quorum L'Épargne, c'est une équipe très sérieuse et un savoir-faire depuis de nombreuses années, des objectifs atteints depuis 12 ans. Ils accompagnent au quotidien plus de 120 000 épargnants et je leur fais confiance. J'ai moi-même ouvert un compte pour performer autant sur la piste qu'avec mon épargne. Pour finir, sachez que Quorum L'Épargne et le sport, c'est une histoire qui dure. Ils ont longtemps été engagés dans la voile et récemment, ils ont décidé d'accompagner 21 athlètes comme François Daen, Solène Pierret, que vous avez pu écouter sur le podcast Extraterrien. Donc la performance, c'est vraiment dans leur ADN et d'ailleurs, si vous souhaitez suivre la performance de leurs athlètes, allez sur le compte Instagram @quorum.sport. Bon épisode!
Bonjour à toutes et à tous, c'est Barthélémy et je suis ravi de vous accueillir pour ce nouvel épisode du podcast Extraterrien, le podcast qui interviewe des sportifs hors du commun. Le but de ce podcast est de vous partager leurs secrets, leur vie et d'en apprendre beaucoup plus sur eux afin d'en tirer un maximum de conseils pour votre vie sportive et personnelle. Si vous aimez le sport, l'aventure, le développement personnel ou que vous aimez tout simplement vous inspirer de personnalités remarquables, alors ce podcast est fait pour vous. Attention, mes chers auditeurs, l'invité du jour a tout simplement un palmarès incroyable. En effet, il a été deux fois vice-champion d'Europe de triathlon. Suite à ça, il a subi une grave blessure et s'est relancé par le trail et il a été deux fois champion de France. Il a aussi gagné récemment la Saint-Élion en 2019. Il s'agit de Cédric Fleureton. Son nom vous dit sûrement quelque chose. Il est sur beaucoup de courses et c'est vraiment une personnalité atypique. C'était vraiment un plaisir pour moi de découvrir Cédric. C'est vraiment un homme sincère, droit et au parcours plus qu'inspirant. Comme il le dit lui-même, le sport doit rester à sa place, c'est-à-dire un plaisir avant tout. Et pour finir, en fin d'interview, Cédric annonce son défi pour 2020. Pour être vraiment honnête, c'est un défi des plus fous que je n'ai jamais entendu dans le monde du sport d'endurance. Donc je vous recommande vraiment d'écouter jusqu'au bout pour que vous ayez le scoop. Vous allez voir, vous allez vraiment être scotché. Et pensez à le suivre vraiment sur les réseaux parce que je pense qu'il y aura des très très bonnes news pour cette année 2020. Juste avant de commencer, j'ai deux messages à vous faire passer. Comme vous le savez, j'ai énormément d'ambition avec ce podcast et je souhaite aller chercher des sportifs de plus en plus incroyables et j'aimerais vraiment interviewer vos sportifs préférés. Et l'un des meilleurs moyens pour convaincre ces sportifs de participer, c'est tout simplement de leur montrer les notes iTunes et de leur montrer que vous êtes vraiment nombreux à aimer ce podcast. Donc si ce n'est toujours pas fait, allez mettre une note sur iTunes ou n'hésitez pas à prendre le téléphone d'un copain pour aller sur Apple Podcasts et le noter, c'est vraiment ce qui m'aide le plus. Sachez qu'un exploit se fait toujours grâce à un excellent public et en équipe. Donc si vous souhaitez que j'interviewe des sportifs de plus en plus inspirants, ça dépend aussi de vous, donc je compte sur vous, je sais que vous êtes un public hyper cool, donc je me fais pas de soucis. Sachez aussi que si vous écoutez sur Spotify ou une autre appli, vous pouvez très facilement le partager en story en faisant tout simplement une capture d'écran de votre téléphone pendant que vous écoutez et ajoutez-la en story sur Instagram, taguez-moi et je vous repartagerai. Je vous rappelle donc le nom du compte Instagram qui s'appelle extraterrien.podcast. Suivez-le et vous y retrouverez les coulisses du podcast. C'est, comme je le dis très souvent, un excellent moyen pour échanger avec moi, pour qu'on fasse connaissance et puis pour voir si je peux vous aider aussi dans vos objectifs personnels. Parce que si vous ne le savez pas, je fais un petit peu de coaching. Et c'est aussi un excellent moyen de me suggérer des invités. Voilà. Enfin, j'ai créé une newsletter dans laquelle je repartage vraiment mes bons plans, les meilleurs contenus que j'ai trouvés sur le web à propos de santé, de préparation mentale, de nutrition, de matériel aussi. Donc voilà, vous pouvez la retrouver très facilement dans Google en tapant extraterrien newsletter. C'est du contenu unique en rapport avec le podcast, mais pas toujours. Donc voilà, c'est vraiment pour ceux qui aiment bien le format email, j'ai fait quelque chose de spécial pour vous. Allez, j'en ai fini avec ma promo personnelle. Je vous laisse tout de suite avec mon invité du jour, Cédric Fleureton. Salut Cédric.
Salut.
Tu vas bien ?
Bah ouais, ça va.
Génial. Bah écoute, merci beaucoup de prendre un petit peu de temps pour moi pour ce podcast. Je suis vraiment content de te rencontrer parce que, comme je te disais à l'instant, c'est Francky Batelier qui m'a parlé de toi et c'est quelqu'un avec qui je me suis très bien entendu et qui a fait un super épisode. Les auditeurs vont beaucoup aimer. Donc sur ces recommandations, je suis sûr qu'on va faire une super conversation aujourd'hui.
J'espère.
Comme je te le disais aussi juste à l'instant, je commence toujours par une même question, à savoir quel est ton premier souvenir de sport ?
Voilà, c'est vieux. Je suis plus très jeune maintenant. Les premiers, tout premiers, moi, je pense, que c'était quand j'étais vraiment minot, c'est-à-dire tout petit, je devais avoir 5-6 ans, et bah très tôt. Moi, je suis né dans une famille de sportifs, donc voilà, chez moi, c'était le sport. Mon père était prof de sport, mon père était entraîneur d'aviron, ancien rameur international. Et du coup, voilà, j'étais le petit frère de la grande sœur. J'ai une sœur qui a un an et demi de plus que moi. Et du coup, voilà, j'étais là un peu suiveur et voilà, sur toutes les compètes. Donc les premiers souvenirs sportifs, c'était par procuration, j'ai envie de dire, parce que c'était les jeunes athlètes que mon père entraînait. Et voilà, et moi je regardais ça d'un œil tout gamin. J'étais un peu la mascotte du club. Et voilà, cette atmosphère de sport, cet esprit de camaraderie, de bonne ambiance, voilà, de choses très très saines, enfin tout ce qu'il y a de mieux, enfin je trouve dans le sport, voilà, des super relations, et ben voilà quoi, ça, j'ai baigné dedans depuis tout petit quoi. Donc voilà, il y avait la performance aussi, hein, parce que ils faisaient tous des performances incroyables, et du coup c'est vrai que j'ai été un peu élevé là-dedans, et bon, on va en parler un peu plus tard, mais je suis arrivé un petit peu tard moi après dans le sport, et c'est vraiment ce que j'ai recherché quoi. Voilà, ces ambiances de sport, voilà, où on se prend pas la tête, où on déconne, voilà, et
les
ça
copains,
ouais, un peu les ambiances vestiaires, voilà, c'est ça, c'est ce que je cherchais, le mot que je cherchais depuis tout à l'heure, hein, c'est surtout l'ambiance vestiaire qui m'a plu et que je retiens quand j'étais petit quoi.
Et c'était un club de triathlon ?
Non, bah du coup mon père entraînait l'aviron, donc c'était un club d'aviron, et d'ailleurs l'aviron c'était mon premier sport, j'ai envie de dire, où j'ai commencé à y passer du temps. J'étais pas forcément talentueux parce que voilà, c'était un sport où je pense j'avais pas les qualités requises pour ce sport. En faisant 1m70, enfin maintenant 1m70 pour 60 kg, c'est pas un profil de un gabarit de rameur, mais bon, peu importe, quand j'étais jeune, voilà, et c'est pas un sport que j'ai voulu pousser, voilà, mais ça a été un de mes premiers sports. Ouais.
Ok, ouais, bah j'ai eu la chance de rencontrer Jérémy Azou via
Jérémy
ce podcast.
Azou,
tu vois son physique, c'est vrai que vous avez pas la même carrure.
Et pourtant Jérémy, donc du coup lui c'est un poids léger. En environ t'as deux catégories, donc poids léger et ça fait partie des petits poids légers. Hein.
Ouais.
C'est pas voilà, c'est un vrai poids léger, voilà. Et pourtant, ouais, comparé à moi, ouais, c'est une masse, quoi.
Exactement. Donc t'es venu à l'aviron et c'est à quel moment tu dis que t'étais pas très doué, c'était pas ce que tu...
Alors, je pense que rapidement, parce que j'ai commencé très jeune, peut-être un peu pour ça aussi que j'ai lâché très tôt, mais voilà, mon père m'a mis très jeune naturellement à l'aviron. Et ouais, je me suis aperçu que c'était pas pour moi vers les 12-13 ans, quoi.
Ok, ouais. Et c'est à ce moment-là que t'es venu sur le tri?
Non, ouais, je suis arrivé bien plus tard sur le tri. Donc moi, j'ai participé. j'ai pratiqué beaucoup de sports en fait, mais vraiment différents.
Dis-moi tout.
Je parle de l'aviron, mais en parallèle, j'ai fait beaucoup de gym, j'ai fait beaucoup de vélo, enfin du BMX, j'ai fait des sports de glisse, j'ai fait pas mal de planche à voile, enfin tout ça.
Ok.
Et vraiment un peu touche à tout, tu vois. Et j'ai fait du hand, des sports co aussi, du hand, du foot, un peu comme tous les gamins, quoi.
Qu'est-ce que tu recherches recherchais? Tu recherchais différentes ambiances? Tu recherchais
voilà,
avoir
un petit peu les ambiances. Et puis, c'est vrai que j'étais pas mauvais un petit peu dans tout ce que je touchais. Donc, c'était assez sympa. Voilà. Mais après, j'ai envie de dire, le point commun à toutes ces pratiques, c'est que dès que ça commençait à devenir un petit peu sérieux, on me disait, il y a peut-être un profil intéressant, il y a peut-être, Et bah, à chaque fois, je partais, quoi. J'avais pas envie de, voilà, j'avais pas envie de me prendre au sérieux, j'avais pas envie, comme si je fuyais un petit peu dès que ça devenait un petit peu sérieux et dès qu'on commençait à me dire, ouais, ça peut être pas mal, tu peux avoir des résultats. Ben voilà, j'allais découvrir une autre discipline et,
ouais.
Et voilà, je sais pas pourquoi, mais au final je me dis que c'était pas mal parce que du coup j'ai eu un éveil sportif psychomoteur intéressant et voilà, et maintenant j'arrive assez bien à passer une discipline à l'autre sans trop de problèmes et je trouve ça assez sympa. Et en tout cas moi j'ai des enfants maintenant qui sont grands et je les ai éveillés de la même manière et je trouve que c'est assez sympa parce que
ouais.
On peut vraiment faire des choses, toucher du doigt un peu tous les sports et être un petit peu à l'aise, que ce soit avec un ballon, avec un surf, avec une planche ou je ne sais quoi. Et ça, je trouve ça assez sympa. En tout cas, c'est un éveil, je trouve, intéressant dans la vie.
Ouais.
Je trouve que c'est bien voilà, d'avoir conscience de son corps et maîtriser un petit peu, voilà, tous ses paramètres. Je pense que c'est un atout pour la vie.
Bah ouais, tout à fait. Bah, en plus, ça m'inspire beaucoup parce que moi, je suis papa, aussi, là. Je vais être papa pour la deuxième fois bientôt, là.
Ouais.
Dans quelques semaines. Et j'en parlais avec ma compagne et effectivement, je trouve que c'est beaucoup mieux d'essayer de leur faire découvrir plein de choses.
Exactement, et un panel qui découvre ça se joue enfin moi ça m'a beaucoup amusé quand j'étais jeune papa. Justement, entre, j'ai envie de dire, 0 et 5 ans, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se font.
Ouais.
Et il y a un vrai éveil psychomoteur, voilà, et sur des choses tout simples, des ballons, des roulés, des roulades, des choses comme ça. Il y a beaucoup de choses qui se développent. Enfin, moi, je voyais mes enfants comme ça s'épanouir au niveau psychomoteur. Je trouvais ça super intéressant. Non, c'est sympa ça.
Ok. Ouais. Et du coup, à quel moment tu t'es mis au triathlon?
Bah tard. Alors j'ai découvert le triathlon. J'avais 20 ans passé. Je peux pas dire exactement. Je devais avoir 20-21 ans. En compte, c'est quand je suis arrivé en fac. Donc
ouais.
Voilà. Donc j'ai eu mon bac, tout ça, et après je suis arrivé en fac de bio en première année. C'est un sport que je connaissais pas. Donc voilà. Donc c'est maintenant ça serait quand même fort de café, mais à l'époque, c'est-à-dire dans les années 90-95.
De toute façon, la naissance du triathlon, je crois,
en France, c'était 89.
Ouais, 89.
Donc, ouais, 89. Mais bon, c'était un peu plus tard, je veux dire, c'est les années 96. Donc, le triathlon existait, bien sûr, depuis quelques années, mais c'était pas non plus, le sport, connu comme maintenant. Et juste le mot triathlon, il y avait deux personnes sur trois qui savaient pas ce que c'était. Moi, je savais ce que c'était, mais c'était vraiment pas un sport que je connaissais. Et quand je suis arrivé à la fac, et ben, j'ai fait connaissance avec un pote qui est devenu un de mes meilleurs amis. Et voilà. Et lui, il pratiquait déjà le triathlon. Et voilà. Et du coup, il m'a mis un petit peu la main à la pâte. Et puis c'est vrai que moi, un peu dans l'esprit que j'avais toujours eu de ne pas pratiquer un sport, mais plusieurs sports, aller vraiment chercher la pluridiscipline. Et du coup, voilà, j'ai trouvé ça intéressant. Je me suis dit, tiens, ça pourrait être un sport qui pourrait me convenir. Et voilà, j'ai commencé comme ça, en fait.
Et auparavant, tu nageais un peu?
Je nageais pas. Non, j'étais pas nageur du tout. Ceci dit, j'ai toujours aimé la flotte. J'ai toujours fait des sports de glisse. Et puis, un petit peu, comme je te disais, dans l'esprit où voilà, niveau sensoriel, j'avais fait pas mal de gym. Donc, généralement, les gyms, ils connaissent assez bien leur corps.
Ouais.
Et au final, je me suis pris au jeu très vite et puis j'ai progressé, j'ai réussi à progresser assez vite finalement dans ce sport que j'avais jamais pratiqué sérieusement avant, quoi.
Ok, d'accord.
Ouais.
Et ça a été un coup de foudre tout de suite ou c'était
ouais, bon, après ça n'a pas été du jour au lendemain, j'ai pas été bon du jour au lendemain. Hein. C'est vrai que d'emblée j'avais, on va dire, un potentiel physique, physiologique, donc ça se voit surtout en course à pied et en vélo, et c'est vrai qu'en natation je partais quand même de loin, de très loin, donc il m'a fallu quand même quelques années pour arriver à bien nager et après aller tutoyer, j'ai envie de dire, le haut niveau, parce que c'est pas ça arrive pas du jour au lendemain, quoi.
Ouais, c'est clair.
Ouais.
Et du coup, c'est à quel moment que tu te rends compte justement que tu rentres vraiment au niveau
les premiers coups d'éclat, j'ai envie de dire, où je me dis il y a peut-être quelque chose à faire, ça doit être 98, ça remonte, hein.
Ouais.
98, un championnat de France universitaire où j'avais fait deux, je crois. Ouais, c'est sûr, j'avais fait deux. Voilà, et quelques semaines après, je fais un championnat de France et je fais 9e.
Ok.
Voilà, donc avec un entraînement vraiment très très léger par rapport au gars qui me talonnait, et puis avec surtout encore beaucoup de marge de progression. Donc si tiens là, il y a peut-être quelque chose à faire. Donc j'ai envie de dire ouais, une prise de conscience 98, 99, 2000 où là ouais, il y a eu une bonne barrière de franchie au moins psychologique, ouais. En me disant ouais, effectivement, il y a peut-être quelque chose à faire dans le haut niveau, dans l'international. Et puis bon, après, ça a été encore beaucoup de travail hein, pour arriver à faire des perfs probantes sur la scène internationale. Ouais,
ouais, bah j'imagine. Ouais. Ouais. Et ça ressemblait à quoi, du coup, le triathlon en 98-99? Parce que là, aujourd'hui, ouais, c'est un sport un peu plus populaire. Mais
Ouais, ouais. Alors, à l'époque, c'était vraiment les années où on a connu le triathlon sans drafting, et ça basculait au triathlon avec drafting.
Okay.
Donc moi, pas trop nageur de formation, c'est vrai que le côté triathlon sans drafting m'avantageait quand même beaucoup. Mmh. Et là, on passait au triathlon avec drafting. Alors drafting, quand je dis triathlon avec drafting, c'est le triathlon où on a le droit de prendre les roues des concurrents adverses et de rouler en peloton. Avant, c'était vraiment, on devait laisser 10-15 mètres
voilà, entre les pas concurrents,
entre concurrents pour pas bénéficier d'aspiration. Donc c'est ça le drafting. Et donc du coup, bah, stratégiquement, il fallait nager très fort pour être dans le bon coup dès le début si on voulait, voilà. Donc bah du coup j'ai dû encore progresser encore plus vite en natation, mettre un peu plus sa pression sur la natation pour arriver à perfer tout simplement.
Ok, d'accord. Et t'en gardes un bon souvenir de ces années-là?
Ouais, bah bien sûr. Après
il y avait du monde sur les courses.
Ouais, bah oui, ouais. Attends, c'était non, bah 2000, c'est l'entrée du triathlon aux Jeux Olympiques quand même,
donc
ça commençait à être un sport qui faisait parler de lui. Non, c'était bien organisé. D'ailleurs, il y avait des courses. J'ai l'impression qu'il y avait plus de courses que maintenant, les week-ends, okay. Ouais. Et c'était plus primé. Hein, on arrivait mieux à en vivre, je pense, que maintenant.
Okay.
Il y avait vraiment des courses avec des primes intéressantes. Non, c'était assez bien. Enfin,
et
à
toi,
l'époque,
tu disais que tu pouvais en vivre à l'époque.
J'ai commencé, moi oui, j'en ai vécu ouais. Tout de suite. En fait, j'ai fini mon cursus universitaire et j'ai commencé à être, j'en ai dit, un triathlète professionnel.
Ouais.
Où je vivais de mes cachets de course, mais aussi de mon club. J'étais longtemps à Sartrouville, des primes de course, des aides de la Fédé, etc. Mais ouais, ça allait pas trop mal. Ouais, j'en vivais pas trop mal. Ouais.
Ok,
ouais,
d'accord. Ouais, parce que effectivement, maintenant, aujourd'hui, c'est peut-être un peu différent. T'as 2-3 stars qui ont beaucoup de sponsors. Et
ouais,
pour les autres, ça doit être autre chose. Mais
à l'époque, c'était un peu pareil. Il fallait vraiment être bon pour gagner sa croûte. Mais ouais, je pense que c'était comparable. Okay. Après, c'est sûr que tu prends Vincent Louis, maintenant champion du monde, il a quand même un palmarès énorme avec des gros sponsors derrière. Ça a rien à voir, mais bon, c'était pas non plus les mêmes perfs. Enfin, j'étais pas.
Ouais. Bah, c'est vrai que ça s'est professionnalisé, et on le voit aussi sur la qualité de l'entraînement. Les meilleurs coachs, on va dire, dans chaque discipline aussi ont eu le temps de venir, d'apporter leur expertise et de manière globale, on va dire, la technologie, on le voit beaucoup même avec des baskets maintenant. Mmh. La technologie vient mettre un peu le bout de son nez, donc c'est sûr que ça aide beaucoup. Et du coup, j'ai pas noté l'année, mais tu es 2 fois vice-champion d'Europe.
Ouais.
Et je voulais savoir un petit peu t'es assez âgé, on va dire, t'es plus un gamin. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là? Comment est-ce que tu le vis? Comment est-ce que tu le vis, ouais, à cette époque-là?
Bah, c'est 2005 2006. Donc effectivement, je suis plus un gamin, j'ai déjà un enfant d'ailleurs, parce que j'ai...
Okay. Ça aide.
Oui et non, parce que après c'est une logistique différente, et bon, quand ils sont tout petits ça va encore, mais après c'est vrai que ça a été, je vais pas dire que ça a jamais été un handicap, mais c'est vrai que tu réfléchis pas de la même manière, et ça prend du temps, ça te prend de l'énergie, et voilà, c'est difficile de focusser à 100% quand tu commences à avoir une vie de famille à côté. C'est vrai que c'est, pour un sport autant exigeant que le triathlon, je suis pas sûr que ce soit un atout, même si c'est chose exceptionnelle et je souhaite à tout le monde, mais c'est pas évident de jongler ouais. jongler les deux, enfin bref. Donc du coup ouais, 2005 2006, non bah tout simplement je prends ça, enfin c'est pour moi c'est j'arrive vraiment dans le haut niveau, voilà, j'ai les dents longues, j'ai envie de voilà de confirmer un petit peu ce que j'arrive à faire à l'entraînement et voilà donner le plein potentiel de ce que je peux faire. Et puis ouais, sur ça match sur quelques courses, j'ai gagné aussi des coupes du monde, ouais, un peu dans les mêmes années, donc voilà, non c'est génial, c'est quand même un sport qui demande énormément d'investissement, que ce soit du temps ou d'énergie, voilà, donc c'est vrai que c'était quand même des super choses, parce que voilà, là on concrétise vraiment quelque chose, le temps passé, l'investissement au quotidien, etc. Alors, toute l'énergie qu'on met dedans, ben voilà, quand il y a une perf, quand il y a une médaille, et ben voilà, on se dit putain ça y est, j'y suis quoi, c'est bon quoi, c'est ouais. bon. Et ça c'est les bonnes émotions, ça c'est les émotions du sport, ça c'est les vraies, c'est les bonnes.
Ouais. Ça fait quoi d'entendre la Marseillaise sur
Moi c'est tu regardes toutes les images, je suis ouais, j'ai les larmes, ouais, c'est moi, pour moi c'est énorme, parce que tu vois, ça c'était le début de l'interview là, du podcast, mais voilà, pour moi quand j'étais gamin, c'est des choses j'ai entendues, j'étais tout petit quoi, voilà, étant en équipe de France, tous les gamins que j'ai pu côtoyer quand j'étais tout petit, ben ils voulaient être en équipe de France, et arriver en équipe de France c'était génial, et faire une médaille aux France, une médaille internationale, c'était génial, et voilà, donc du coup j'ai baigné un petit peu là-dedans, tu vois, avec ça quoi, la Marseillaise, le titre, le champion, etc. donc c'est vrai que ça, je pense, ça faisait partie de mes rêves d'enfance quelque part, et au final ben voilà, quand tu y arrives c'est bon quoi. Ça ouais. fait du bien.
En plus, il y avait une super équipe, non, à cette époque-là, parce qu'il me semble que une année, le premier, c'est un autre Français.
Non, les deux années, donc 2005-2006, ouais, c'est Fred Belhomme.
Fred Belhomme.
Ouais. Putain, tu connais pas Fred Belhomme.
Bah, écoute, ouais. maintenant, j'ai plus d'excuse. En plus, j'ai vu son nom hier soir et tout. Et...
Un des plus gros palmarès du triathlon.
Et ben, voilà. Et ben, je vais.
Donc, trois fois champion d'Europe quand même, ouais. le Fred. Donc ouais, deux fois non, on s'entraînait pas ensemble, on était du même club, on se côtoyait quand même beaucoup, mais non, on n'a jamais on s'est jamais entraîné ensemble parce qu'on n'était pas des mêmes régions.
OK. Ouais. Et c'est quoi les relations à cette époque-là dans un sport qui est un peu, il y a une dimension d'équipe, tu vois, mais ça reste quand même un sport individuel.
Non, il y a pas de dimension d'équipe dans le triathlon, c'est pas vrai.
C'est vrai.
Non, okay. C'est un pur sport individuel. Même maintenant, on peut croire, on pense que, etc. Mais en tout cas, moi, dans le camp France, il n'y a jamais eu de notion d'équipe. Après, ça veut pas dire qu'on n'est pas content quand c'est un collègue d'équipe de France qui gagne. Voilà, c'est pas ça. Mais en tout cas, dans ta course, dans tes courses, tu penses individuellement, quoi. Tu fais ouais. pas. Ouais. Il y a pas de notion. Il y a pas de notion d'équipe, quoi.
Ouais.
Alors maintenant, ils ont inventé. Donc maintenant il y a une nouvelle formule là, qui s'appelle le mix.
Ouais.
Là pour le coup c'est une vraie discipline collective. Là. Il y a une vraie notion de collectif quand même. Après il y a des alliances de comment on appelle ça de. Tu peux très bien t'allier avec un Français sur une course ou avec un étranger. Voilà, c'est les ouais. opportunités qui font que voilà, mais il n'y a pas vraiment, j'ai envie de dire, de course d'équipe par couleur. Voilà, ou alors on peut s'aider un petit peu, mais ça reste quand même des courses individuelles, quoi. Tu cours pour toi, quoi.
Ouais. Et toi, tu les vois comment d'ailleurs les adversaires? C'est quoi ta... Je sais que tu vois, j'ai... c'est vraiment une des questions qui est assez clivante. Des fois, j'ai des sportifs qui me disent « Oui, moi, les adversaires, c'est vraiment un peu mes ennemis, entre guillemets. Ouais. J'ai envie de les battre. » D'autres qui vont plus me dire « Bah non, je les vois comme des partenaires ou des gens qui me tirent vers le haut. »
Alors moi, je suis très attaché aux valeurs originelles du sport, hein, vraiment le sport noble. Et voilà, moi, j'ai pas ce... J'ai pas d'animité, j'ai pas de, voilà, pour moi vraiment un partenaire de course, c'est un partenaire quoi.
Ouais.
Sinon, si t'es tout seul dans une course, ça sert à rien, quoi. Il y a plus de course. Donc, non, je suis très respectueux de tout. J'aime vraiment tous les gestes, les vrais beaux gestes du sport. Ça, je suis très attaché à ça. Après, c'est vrai que quand j'ai un dossard, j'aime gagner et voilà, je fais ce qu'il faut. Mais voilà, j'ai pas ce côté méchant, vicelard. Certains ont là, dès qu'ils sont en course, ils sont un peu mauvais, ils sont prêts à bouffer tout le monde. Moi, absolument pas. J'aime bien respecter tout le monde, quoi. Voilà. Ouais. Moi, le sport, c'est une fête, quoi. Et moi, je suis pas en guerre, quoi.
Ouais. T'as mentionné que le triathlon, c'était un sport très chronophage et très long hein, d'entraînement. Ouais. Toi, à l'époque, tu te souviens un petit peu de la quantité d'entraînement que tu faisais?
Ouais, je m'entraînais en gros 3-5 heures par jour.
Ok. T'as l'air de dire que c'est normal.
Tu t'habitues au bout d'un moment. Ouais. Non, tu t'habitues.
Mais bon, et ça ressemble à quoi une journée
quand tu fais que ça au bout d'un moment? Bon, voilà, c'est ton quotidien et tu réfléchis même plus. Tu te lèves, t'as déjà les baskets aux pieds, t'es prêt à courir. tu sais qu'à midi tu vas nager et voilà, du coup là, c'est le jour où ça s'arrête. Où tu te dis, putain, ouais, c'est vrai que c'était beaucoup, quoi. Mais une journée type, c'est un petit peu ce que je dis. C'était peut-être un petit footing le matin ou une petite sortie de vélo. Ensuite j'allais nager et puis un troisième entraînement en fin de journée, quoi. Si j'avais couru le matin, ça pourrait être du vélo, ou je pourrais recourir le soir, ou, j'étais bien adepte de trois disciplines par jour. Hein.
Ouais. Donc c'était à fond dedans,
T'étais obligé t'es obligé d'être à fond dedans. T'es obligé. Tu peux pas faire ça à côté. En tout cas, le triathlon de haut niveau, hein. Tu fais pas ça de manière cool, relax. Voilà, quoi.
Non, mais c'est sûr que t'es obligé d'être à 100%, tu peux pas avoir un job à côté.
Je pense que c'est compliqué. Moi, j'ai juste une petite anecdote. C'était vers la fin, je crois, 2007, 2008 ou 2009, là, quand j'ai commencé à me dire, qu'est-ce que tu vas faire après?
Ouais.
Je me souviens juste de réfléchir et de me dire, me poser la question et on va dire de focusser un petit peu moins et de commencer à réfléchir à autre chose. J'ai perdu 15 places au niveau mondial, quoi, quasiment du jour au lendemain, quoi, parce que voilà, j'étais pas à 110% dedans, quoi.
Ouais, ok.
Donc, ouais, pour te dire un petit peu le truc, ouais, c'est chronophage et ça prend beaucoup de temps, d'énergie, et même psychologiquement il faut être à 100%, quoi.
Ouais mais tu fais bien de le dire, et c'est marrant comme anecdote, tu vois, de te dire juste mentalement j'ai un peu
juste
dévié.
De penser à autre chose, ça y est, j'y étais plus, quoi.
OK. Et à l'époque tu t'entraînais seul ou t'étais accompagné, t'étais avec un club?
Alors, les entraînements de natation, j'ai toujours nagé en groupe.
OK.
Voilà, à pied, ça m'est arrivé de courir en groupe, mais généralement c'était un peu en solo. Et en vélo, pareil, c'est quand même agréable d'avoir un petit groupe d'entraînement et partager un petit peu, mais je faisais quand même beaucoup de choses seul, ouais.
Okay.
Ouais, parce que les horaires, tout ça, après c'est compliqué quand tu dois te caler sur les uns les autres, voilà. Et puis moi j'étais un petit peu à l'écart de toutes les structures d'entraînement, parce que j'ai jamais voulu bouger de chez moi, donc j'ai jamais été en crêpes, j'ai jamais été en structure d'entraînement vraiment cadrée. Donc, je me suis un peu autoconstruit, enfin même carrément, je me suis autoconstruit, autodidacte vraiment dans la discipline, hein. Depuis le début, j'ai jamais eu d'entraîneur,
pas de coach,
jamais
pas
de mentor, okay. Non. Donc, j'aimais bien faire ma petite sauce, voilà. Après, j'ai toujours été ouvert, j'ai toujours eu des potes super, hein, qui étaient là pour s'entraîner avec moi, et voilà, on avait des groupes, un bon petit groupe d'entraînement, ouais, mais c'était vraiment une sauce, une petite popote, quoi. c'était sympa, quoi.
Non, mais c'est dingue de voir, tu vois, aujourd'hui on serait incapable de voir un athlète de haut niveau on va dire s'entraîner tout seul, tu vois.
Je pense que si, quand même.
Il y en a quelques-uns, tu penses?
Je pense. Et généralement, tu vois, hein, moi, je suis quelques jeunes sur la durée. Généralement, t'as différentes phases dans le dans l'entraînement. Donc quand t'es jeune, t'es bien suivi, t'es super encadré, tout rentre dans les lignes et puis tu suis vraiment un plan très détaillé. Et puis au fil du temps, l'athlète il prend un peu le dessus, j'ai envie de dire, un peu avec un peu de maturité, tu vois, il commence à savoir ce qui lui est bon à tel moment, etc. Et après, bah tu vois un petit peu, même si Vincent Louis c'est pas le bon exemple parce qu'il est toujours dans une structure d'entraînement, mais j'ai envie de dire passer la trentaine, généralement t'as dans ces disciplines d'endurance qui demandent beaucoup de maturité, beaucoup d'entraînement et beaucoup de maturité, généralement tu vois un petit peu les athlètes qui se dévoilent un petit peu justement parce qu'ils commencent à prendre en main. Et moi je pars du principe que l'athlète c'est lui qui ressent au mieux la charge d'entraînement. Donc pour un peu qu'il réfléchisse un petit peu sur les contenus d'entraînement et puis le ressenti qu'il peut avoir, généralement ça peut donner des choses intéressantes. Donc des fois effectivement très jeunes les athlètes ils sont très bons, puis après ils arrivent à un moment où à force d'avaler des tas de choses à droite à gauche, et ça devient un peu compliqué, puis après ils prennent en main leur entraînement et tu vois un peu un deuxième pic de carrière, ça peut être intéressant. Et des fois tu te poses la question, mais tu dis en fait le mec il a compris comment il fonctionnait et c'est lui qui va aller chercher et c'est lui qui fait son contenu, etc., qui a pris un peu la main là-dessus. Ouais. Généralement, tu vois que ça marche plutôt pas mal.
Ouais, mais c'est vachement intéressant ce que tu dis. Effectivement, il y a d'avoir deux paliers un peu, un moment où tu es obligé d'être accompagné.
Souvent, il y a ça, mais généralement, c'est le premier palier, tu vois, au bout d'un moment, ça s'essouffle un peu, quoi.
Ouais.
Parce que c'est un petit peu la surenchère, t'en rajoutes, et puis jusqu'au moment où le mec, il est un peu en surentraînement, il est un peu, il est un peu au bout du tunnel, quoi, où il sait plus quoi faire, il a essayé un tel, voilà. Et justement, c'est quand il commence à sortir et se poser les vraies questions, dire « Tiens, ouais, je me souviens, je faisais ça, ça marchait super bien. Bah ouais, commence à le faire. » Et puis après, hop, t'adaptes un petit peu avec le ressenti, etc. Ça peut donner des choses super intéressantes. En tout cas, moi, ça m'arrive d'entraîner, je coach quelques personnes et je pousse vraiment sur l'autonomie, quoi. J'appelle ça l'autonomie, quoi. Et quand t'es autonome dans ta pratique, quand t'arrives à te construire des entraînements à toi, tes propres entraînements, tu sais ce qui est bon pour toi. C'est pour des sports comme l'endurance, comme le triathlon, assez complexe, parce que t'as quand même trois disciplines. Tu dois arriver à un pic de forme dans trois disciplines différentes le jour J. Donc c'est assez complexe, j'ai envie de dire, au niveau entraînement, mais aussi à gérer individuellement. Le corps, il réagit de manière complètement différente, qu'il soit sur un vélo avec des baskets ou dans un bassin. Donc, c'est super complexe au final, quoi. Et c'est vrai qu'un entraîneur, il y a des bons entraîneurs, je dis pas, mais tu peux jamais vraiment savoir le bon fonctionnement, même si tu discutes, t'échanges, t'es là au quotidien avec l'athlète. Je pense que c'est vraiment l'athlète, et puis ça dépend vraiment tellement de facteurs que c'est hyper complexe, quoi. Et quand je pense que l'athlète, quand il arrive à s'autogérer et à mettre un petit peu des sensations sur des ressentis sur du contenu d'entraînement, et ça peut donner des choses très intéressantes, ouais.
Ok, en tout cas, c'est hyper intéressant, puis c'est vachement original, je trouve, comme positionnement dans le sport. Et non, mais en fait, ça fait sens, tu vois, l'athlète se connaît le mieux, et c'est des charges de travail énormes.
Ça veut dire que tu pars un peu sur des entraînements un peu plus au ressenti.
Ouais.
Et tu lâches un petit peu sur des choses un peu plus terre à terre, un peu plus conventionnelles, si tu veux. Et moi, je sais que je me suis beaucoup amusé, et ça m'a toujours amusé, d'ailleurs, plus que la performance, d'ailleurs. C'était le process, c'est-à-dire comment tu mets en place ton entraînement, comment t'arrives le jour J à être le plus performant possible, quoi. Et ça m'amuse encore aujourd'hui, et je me découvre encore aujourd'hui à 46 ans, quoi.
Ouais.
Et ça, je trouve ça, enfin pour moi en tout cas, c'est un super levier de motivation et de bien-être, quoi.
Ouais.
C'est pas la performance, je m'en fous. Ça m'est arrivé de faire des courses où je finissais 10e, j'étais super content, quoi, parce que j'avais réalisé ce que je voulais réaliser, j'avais mis en place quelque chose et j'étais au point. J'étais en accord avec mes sensations, j'étais en accord avec moi-même, quoi. Et à contrario, des fois, j'ai eu fait des super performances, mais j'avais pas réalisé ce que je voulais, ou j'étais pas au rendez-vous comme je voulais, quoi. Et ça me chagrinait plus, quoi.
Ouais.
Donc, tu vois, c'est le vrai moteur du vrai sportif, quoi. Et je pense que c'est aussi un garde-fou pour toutes les dérives pourries qu'on peut avoir dans le sport, que ce soit le dopage, la magouille, les arrangements, etc. Si si t'as pas du plaisir à t'entraîner au quotidien et si t'as pas ce plaisir à mettre un processus en place et d'avoir un petit peu toutes ces tous ces retours là du quotidien où tu te dis putain je mets ça en place et puis voilà j'espère que j'arriverai à courir en temps ou de telle manière ou me retrouver à tel endroit à tel moment et ben je pense que c'est compliqué quoi donc
ouais. T'as évoqué le dopage Il me semble que t'as créé une structure une association à un moment
Ouais il y a pas mal d'années c'était en 2004
ouais
en
okay.
2004 ouais.
Et c'était du coup c'était AFT donc Athlète for
Transparency donc ouais. C'était assez simple si tu veux même encore maintenant c'est pas ça mais enfin je veux dire c'est encore d'actualité bien sûr ouais. Mais c'est vrai qu'à l'époque si tu veux le même encore maintenant c'est pour ça que j'ai dit même encore maintenant ça a pas vraiment encore pris le pli mais c'est vrai que les questions antidopage les questions de la lutte antidopage c'était essentiellement les infrastructures les grandes grandes institutions qui genre l'AMA l'agence mondiale antidopage la FLD l'agence française antidopage les FED etc qui voilà qui avaient la main dessus et qui étaient en charge de ça quoi et nous on trouvait ça dommage que qu'il y ait pas des athlètes amoureux du sport qui s'initient si tu veux dans la lutte antidopage et qui fassent des choses très très simples à l'époque même encore maintenant je le fais encore maintenant ça a changé de nom mais je le fais encore maintenant c'était tout simplement de partager ces données biologiques régulièrement
okay.
Voilà un petit peu comme un suivi après c'est maintenant ça s'appelle le suivi longitudinal ouais. Mais voilà l'idée c'était vraiment ça quoi c'était de dire voilà moi j'ai rien à cacher je fais des prises de sang régulières et surtout je les rends publiques c'était là toute la différence quoi
okay.
C'est-à-dire il y a plus de secret médical on n'est plus couvert par le médecin de la fédé qui va dire attention là machin et tout faut pas que ça se... non c'est tout est transparent voilà c'était ça être transparent sur ces données quoi
et pourquoi tu fais ça. Parce que tu avais l'impression que le triathlon était pas clean ou parce que c'était aussi peut-être le moment où...
Non, parce que tout simplement, j'aime mon sport, j'aime le sport en général. Et c'est vrai, je trouve que le dopage, c'est vraiment une merde, quoi. C'est vraiment une merde. Et même en tant que spectateur, je trouve que ça fout vraiment la merde, quoi. Moi, je regarde une étape de vélo, t'es là à te dire, putain, ouais, mais non, mais l'autre, putain, le truc ici, et ici, et machin, et tout. Et au final, dans ta tête, tu dis, qu'est-ce qu'il faudrait? Si j'étais sûr que le spectacle, je l'apprécierais mieux, quoi. C'est ça. Voilà, donc, plutôt que de le dire, on l'a fait, quoi. Et plutôt que de dire, moi, tu m'entendras jamais dire, ouais, tel athlète, putain, c'est une merde, il a pas été pris antidopage, mais je suis sûr qu'il est dopé, t'es toutes ces discussions de comptoir, je suis pas là-dedans. Par contre, je suis dans l'action. L'action, ça veut dire quoi? Ça veut dire, faites comme moi. Moi, je vous mets la pression. Moi, j'ai rien à cacher. Regardez mes données. Ouais, toi, tu veux faire quelque chose contre le dopage, t'en as marre et tout. Et ben, fais-le. Et puis, ça mettra la pression sur les autres. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, c'était histoire de faire quelque chose pour le sport. Vraiment pour le sport. C'était vraiment pas forcément personnel. Moi, j'en ai rien à foutre qu'il y ait des gens qui pensent ou je ne sais quoi. C'est pas trop mon souci. Et après, si ça peut être un bon exemple aussi et inspirer des jeunes, voilà, parce que bien souvent aussi, et c'est assez agaçant, tu dis, ou alors beaucoup de gens qui pensent que le sport de haut niveau, et bien sûr, quand tu vois les infos, tu vois bien qu'il y a quand même des choses bizarres qui se passent dans le sport. Et du coup, les gens, ils font assez vite le raccourci. C'est bon, t'es sportif de haut niveau, tu fais des sports d'endurance. Alors, imagine, tu fais des triathlons, tu dois nager tant, tu dois rouler. tous les sports qui sont tachés par le dopage. Les gens, tout de suite, ils font le raccourci. C'est bon, sportif de haut niveau là-dedans, obligé, c'est dopé. Si moi, je le suis pas et j'apporte la preuve que non, et si ça peut inspirer des jeunes, et si tu vois ce que je veux dire, et voilà, si ça peut être un bon exemple, tant mieux. Si ça peut servir le sport d'une manière ou d'une autre, tant mieux, je le fais.
Ok, en tout cas, ouais, je trouvais la démarche hyper noble et hyper respectueuse parce que
en plus, c'est hyper simple. Hein. Non, mais c'est vrai, c'est pas, tu prends pas ton bâton de pèlerin et tu vas pas gueuler, le dopage. Non, c'est.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Et voilà, je peux faire ça, j'ai rien à cacher, quoi. Je veux dire que les gens, ils savent, j'ai 40 d'hématocrite ou 45, ou voilà, moi je regarde même pas, je t'avouerai, parce que j'ai aucun doute, je balance ça, et voilà, j'ai jamais eu de soucis, quoi.
Ouais. Non, et puis en plus, enfin, après, une bonne preuve de ta bonne foi, c'est aussi ta longévité. Enfin, je veux dire, généralement, c'est assez connu que si tu dopes un peu trop, ou que tu en abuses un peu trop de ces produits, tu peux pas durer très longtemps, quoi. Tu vois, par exemple, l'équipe de rugby qui a été championne du monde en Afrique du Sud, sous le film Mandela, tu vois.
Ouais.
Bah, aujourd'hui, la moitié de l'équipe est morte.
Ouais.
Tu vois, alors qu'ils devraient avoir 40 ans aujourd'hui, les mecs.
Ouais.
Donc ils prenaient des produits après eux ils prenaient un peu de tout, tu vois, il y avait des stéroïdes pour prendre de la muscle.
Ils savaient pas ce qu'ils prenaient, je pense.
Exactement. Donc tu vois la longévité, c'est quand même quelque chose qui parle.
Il y a effectivement, t'as raison d'avancer ça. Après t'as aussi les pourquoi tu le fais, et notion de plaisir, ce que je te disais, le process, l'entraînement, le goût de l'effort, tout ça. Enfin, il n'y a pas que ça non plus, hein, mais après, rester performant, passer un âge, je pense que si t'as jamais triché avec toi-même et que t'as toujours eu des performances à hauteur de, enfin, à ta capacité, j'ai envie de dire, ben voilà, ton corps il te le rend un jour ou l'autre, voilà.
Ouais, c'est clair. Il y avait un sujet qui m'avait marqué quand je relisais ta bio, c'est que t'as eu une grosse blessure et que t'as été un peu poussé à la retraite, on va dire, de manière un peu contrainte, hein, si je peux me permettre. Et j'ai l'impression que pour les sportifs qui sont un peu qui sont forcés d'être à la retraite, j'ai l'impression que c'est assez dur, notamment quand c'est le cas d'une blessure.
Ouais.
Et du coup, je voulais aborder avec toi un peu qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête à ce moment-là, et déjà j'avais vu que la blessure avait l'air assez grave, en tout cas quand tu lis le nom médical. Alors je sais pas exactement ce qui s'est passé, j'ai pas réussi à retrouver, mais tu me le diras. Et je voulais savoir un peu qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête et comment est-ce que tu as réussi à rebondir, parce que finalement j'ai l'impression que c'est, pour toi, ça a juste été une marche à gravir et que tu as vachement bien rebondi après, en tout cas sportivement et dans l'image que tu donnes, quoi.
Donc la blessure, c'est simple, c'était en 2009, dernier jour de l'année 2009, 31 décembre, voilà, je joue avec un de mes fils dans un skatepark et voilà, je fais une mauvaise chute, je glisse, mais tout bêtement, un truc, voilà.
Et sur
je marchais.
Okay.
Mon fils descendait une rampe en vélo, il avait 5 ans. Et voilà, et du coup, j'étais à côté pour l'assurer, si tu veux, quoi, il tombe, quoi. Et c'est moi qui ai glissé, lui, il est pas tombé du tout, et moi, je me suis ramassé, et donc je me casse la cheville, mais correctement. Et je fais on appelle ça une trimaléolaire. Donc, trimaléolaire, c'est trois fractures dans la cheville.
Okay.
Donc, la cheville un peu mille morceaux. J'avais le pied qui était complètement de travers, quoi. Donc, voilà, c'était ça la blessure. Donc là, bah, ça a été opération, des plaques, vis, broches. Je te passe un peu le truc. Et voilà. Et du coup, moi, je voulais faire une dernière saison. En fait, 2010, j'avais dit que c'était ma dernière saison. Je voulais arrêter le triathlon après. Et 2010, je voulais faire quelques courses que j'avais bien aimées pendant ma carrière et découvrir un petit peu d'autres courses, quoi. Mais je voulais faire une dernière saison 2010. Et donc, il m'arrive cette blessure et moi, je veux faire la saison quand même. Donc très, très vite, voilà, je me rééduque très, très vite. J'explose tous les records de rééducation. Voilà, je reviens même super vite parce que je crois que j'ai encore les points de suture. Je suis déjà à la piscine. Je nage le pied attaché. Enfin, bref, après, je reprends le vélo sur une jambe. Enfin, bref, Si, parce que les médecins, ils sont comme des dingues. Ça, j'ai vraiment une rééducation énorme. Sauf que j'avais tout le temps mal quand je courais. Donc j'avais tout le temps mal quand je courais, quoi. Donc 6 mois après, j'avais tout le matériel. Donc le matériel, c'est les plaques, les broches. Voilà, je vais voir le chirurgien. Je lui dis, faut m'enlever ça parce que c'est ça qui me fait mal quand je cours. Donc normalement, ils le font pas, mais là, on l'a vu que ça s'était bien passé et que j'étais un peu chiant, et ils se sont dit, on va lui faire. Donc 6 mois après, je me refais opérer, j'enlève tout le matériel.
Wow. Okay.
Et là, je réessaye de courir, et là, je m'aperçois que c'est plus possible, quoi. J'ai tout le temps mal, quoi. J'ai tout le temps mal et ça le fait pas, quoi. Donc au final, saison 2010, j'ai jamais faite. Et puis bon bah c'était pas après je me suis fait une raison si tu veux et puis moi c'était la dernière saison donc je me suis dit bon bah voilà plutôt que de terminer 2010 tu termines 2019 si tu veux 2009 je veux dire je me suis fait une raison et c'était pas un problème. En parallèle j'ai monté une société, je suis parti un petit peu dans le business, voilà, en fait je me suis occupé l'esprit pour occuper un petit peu cette énergie que j'avais et voilà. Donc au final c'est ouais, la blessure, c'est bien placé, quoi. Enfin, tu vois, j'ai pas eu, je pense que si ça avait eu lieu, 5-10 ans avant, en pleine préparation pour les jeux, tout ça, je pense que là, ça aurait été différent. Mais bon, je veux dire, pour moi, dans ma tête, j'étais déjà un peu en fin de carrière, quoi. C'était vraiment l'année de plus, l'année bonus, voilà. Donc, j'ai loupé cette année-là, et c'était pas bien grave, quoi. Surtout que j'ai fait d'autres projets à côté, non, c'est bien passé.
Ok, ouais. Donc ça
après,
a pas été...
j'ai pas pu courir pendant 2 ans. Pendant deux ans, j'essayais régulièrement de courir et je pouvais pas, quoi. D'ailleurs, alors là, j'ai, en termes de sport, j'ai vraiment calmé, quoi. Je faisais plus que du vélo un petit peu, voilà. Puis moi, j'étais bien occupé. J'avais 2 activités professionnelles. Enfin, bon, j'étais un peu taquet là-dedans, mais du coup, le sport, c'était un petit peu entre parenthèses, mais j'ai jamais coupé le lien, quoi.
Ok. Voilà. Ouais. Et c'est à quel moment que tu as pu recourir correctement?
2014.
Ok. Ouais, 2014.
Ouais.
Et c'est l'année où tu reprends, où tu fais champion de France trail.
Ouais, de trail, ouais.
C'est quand même pas mal pour un retour.
Bah, surpris moi-même. Hein. Enfin, moi, j'avais toujours dit, et c'est pour ça qu'il faut. Enfin, je dis plus, je ferai plus jamais. Ou. Mais j'avais toujours dit, voilà, c'est terminé. J'ai fait 15 ans de triathlon à haut niveau. Voilà, j'ai eu des performances, des titres. Voilà, et je cherchais pas du tout ça. C'était pas un manque. Hein. Je voulais plus. Je voulais plus de compétition. Je voulais plus faire de sport de compétition. J'avais dit c'est terminé. J'ai déjà donné et tout. Donc ça, c'était un souhait quand j'ai arrêté en 2009-2010 là. Voilà, pour moi, c'était terminé. J'avais mis un point final à tout ça et voilà, content d'avoir fait une bonne carrière, d'avoir découvert des tas de pays, des tas de choses. Merci le sport et maintenant on passe à autre chose, quoi. Sauf que voilà, 2014, un petit peu par hasard, un pote à moi dans le coin dit tiens, ce serait bien que tu prennes une licence course à pied. Alors je courais un petit peu, mais vraiment très très peu, 2-3 fois par semaine.
Toujours les potes.
Et,
hein.
Et puis au final je me suis laissé un peu influencer et voilà, du coup j'ai dit bah tu me prends une licence et je te fais une course mais pas deux pour le club. Donc t'es tout content, marquer des points pour le club, tu vois, et du coup il me dit bah ce qui serait pas mal si tu fais les championnats de France de course de montagne, tu cours un peu dans les bois tout ça. Et je dis bah si tu veux c'est où, bah c'était pas loin, si ça se tombe bien et tout. Et du coup, ce jour-là, je fais les championnats de France de course de montagne, discipline, je connais pas, hein, j'arrive, je suis tout neuf dans le truc. Et la course se décante, c'était dur, effectivement, c'était de la montagne.
Quand t'avais fait aucune course officielle cette année?
Non, j'avais fait qu'un trail ou deux peut-être, et encore, voilà. Et j'arrive et je fais sixième, de cette course-là, donc championnat de France, voilà, et premier vétéran, et c'est la première course que je faisais en vétéran, tu vois, je sais pas ce que c'était. Enfin bref, donc ils étaient super contents, bien entendu, et voilà, et tout ça pour me dire à la fin, il me dit putain c'est super Cédric, ce que t'as fait, moi je m'en foutais pas mal, et t'es champion de France vétéran, j'en ai rien à foutre. Et il me dit c'est dommage, et il me dit t'aurais été 2 places devant, t'étais sélectionné pour les championnats de France les championnats d'Europe de course de montagne. Et là quand il me dit ça, c'est un peu le la fierté du vieux sportif que j'étais, et je lui dis mais pourquoi tu me l'as pas dit avant, quoi. Et il me dit t'as dit que tu t'en foutais, que je dis ouais mais bon j'ai une sélection c'est une sélection, quoi. Je dis c'est important ça. Et voilà, et du coup j'avais fait 6e ce jour-là, et en haut de la dernière bosse j'étais 4e, et c'est vrai que j'avais pas forcé dans la descente forcément, j'étais pas descendu à tombeau ouvert pour défendre ma 4e place, donc voilà, j'étais un peu frustré, j'avoue, j'étais un peu frustré, un peu déçu, et voilà. Et ce jour-là il me dit bah si tu veux, c'est ça que tu veux, il dit au mois d'août il y a une course, c'est une course de sélection pour les championnats du monde, course de montagne, il me dit si tu veux on t'inscrit, j'ai dit bah tu m'inscris. Et du coup, voilà, là, j'ai préparé un petit peu et j'ai gagné cette course.
Ouais.
Et du coup, c'est là que c'est reparti, parce que sélectionné champion du monde course de montagne avec les Éthiopiens, les Kenyans. Enfin bon, c'était un grand moment de sport. Je me suis retrouvé vraiment avec le maillot France, la Team France. Tu vois, un petit peu, je vais pas dire malgré moi, mais
presque par hasard. Ouais.
J'ai retrouvé des émotions dans le sport et qui m'ont fait vachement du bien. Et je me suis dit, putain, c'est génial, finalement, tu... Et du coup, à partir de ce jour-là, j'ai fait 22e, ce qui était pas mal, d'ailleurs, sur un championnat du monde, voilà, sans trop d'entraînement en plus. Et voilà, quelques semaines après, il y avait championnat de France. J'ai dit, bah, tu m'inscris au championnat de France. J'ai été champion de France. Et en fin d'année 2014, je me retrouve, voilà, champion de France, membre d'équipe de France de course de montagne. Et voilà, avec quelques, du coup, il y avait quelques marques qui commençaient à me demander si je voulais, et là, je me suis posé la question de savoir si je reprenais ou pas un peu. Et du coup, j'ai signé chez New Balance.
Ouais.
Et dans un team, et voilà, et je suis reparti. Et après, après j'ai fait des trucs sympas aussi dans le trail, mais c'est vraiment l'opportunité de repousser quelques lignes comme ça en palmarès et de se faire plaisir. C'est vraiment du plaisir, des émotions, voilà.
Ouais.
C'est un prolongement génial.
Et tu retrouves autant de plaisir dans le trail que dans le triathlon?
Ouais, même mieux, je t'avoue. Ouais. Je peux pas dire, je vais pas comparer le triathlon avec le trail, hein, c'est deux sports super, mais je l'aborde d'une manière différente. C'est vrai que le triathlon c'était un peu plus sérieux, donc tu mets un peu plus de pression, voilà, tu vis les choses quand même. Des fois c'est dur, tu prends des bonnes douches froides de temps en temps. C'est quand même le sport de haut niveau, c'est pas simple tous les jours. Après, je veux pas dire je fais plus du haut niveau, mais maintenant j'arrive à la pression, je sais plus ce que c'est, quoi. Des fois, au départ, je suis obligé de me pincer pour me dire, putain, il va falloir donner le meilleur de toi, quoi. Donc, je prends vraiment les meilleurs instants à vivre dans le sport. Je les vis à fond, quoi. Je les vis à fond maintenant, mais à fond. Et ça, c'est bon.
La renaissance du sportif, quoi.
Ouais, et puis moi, encore une fois, j'aime le sport pour le sport, quoi, et pour les belles choses à vivre dans le sport, donc je les vis pleinement, quoi.
Ouais. Et là, j'ai vu que l'année dernière, t'avais couru à la Saint-Élion, là, du coup.
Ouais.
Super père, du coup, tu gagnes la course, c'est une course quand même mythique.
Ouais, c'est vrai. Ouais.
Et je pense que c'est une des courses les plus connues en France. Hein,
c'est vrai. C'est la doyenne des courses nature en France, ouais.
Et tu fais un temps de premier, quoi. Moins de 6 heures. C'était quoi pourquoi tu t'es inscrit sur cette course déjà? Et
c'est une course. Moi, je suis lyonnais, donc c'est une course. Donc c'est mythique, je pense, en France, mais encore plus à Lyon.
Ah, clairement. Ouais.
Voilà. Et ouais, encore une fois, c'est une course mythique. Moi, je sais que mes parents, j'étais tout petit, ils la faisaient, quoi.
Ouais. Donc,
c'est une vieille course, tu vois. Et par contre, c'est une course qui m'a... J'ai vraiment pas été attiré pendant des années par cette course.
La nuit, le froid.
La nuit, c'est trop long, c'est trop ci, c'est trop là, voilà. Et puis, écoute, cette année, c'est une année particulière. J'étais blessé aussi en 2018. Je me suis fait opérer du genou. Enfin, bref, cette année, je suis revenu, on va dire tardivement dans la saison. On pourra faire un kilométrage sympa pour faire quelques objectifs sympas, donc j'ai vraiment pris le temps de revenir, pas brusquer les choses pour vraiment faire une rééducation correcte, ce que j'ai fait. Donc en fin de compte, je suis arrivé en forme pour faire la perf en trail seulement au mois de septembre, octobre, voilà. Donc ça bichait, tu vois, avec le fait de faire une belle course en fin de saison. Donc voilà, passé le mois d'octobre, tu regardes les courses qui restent.
voilà. Il reste plus grand chose.
C'est la Saint-Élion, et du coup, je me suis dit, bon, bah, allez, feu pour la Saint-Élion.
Ouais. Ouais. Et à ce moment-là, tu regardes un peu les concurrents, tu dis.
Non,
tu,
moi,
tu
dis
un peu,
je regarde pas, moi, je regarde pas. Je me prépare, moi, et puis, le jour de la course, on voit. Ouais, je suis pas du genre.
Et se passe comment la course d'ailleurs? Tu vois, parce que c'est dans le noir. J'ai entendu des interviews comme quoi c'était assez difficile de savoir.
Ouais, c'est difficile, t'as raison.
De se placer par rapport aux autres, tu vois.
C'est pas ça, c'est que, en fait, t'as des courses dans les courses, donc c'est difficile de savoir où t'en es, parce que, donc t'es au départ, t'as des mecs qui courent en équipe.
Ouais, t'as les relais.
Donc,
alors,
des dossards que tu vois, donc tu dis, bah lui, il court en équipe, et puis t'as des dossards, tu vois pas forcément, parce que le mec, il a un sac à dos, il a un suite, il a un machin, tu vois. Donc tu sais pas trop. Donc au final, tu sais jamais vraiment si t'es premier, si t'es deuxième, si t'es troisième, voilà. Même si t'es suivi et on te le dit, tu vois, même les écarts, t'es jamais sûr de rien, quoi.
Ouais.
Donc et puis après, tu rattrapes les concurrents qui sont partis bien avant toi, mais qui font que la moitié de la course. Donc alors, voilà, après, tu sais plus, qui te double, qui sait que tu doubles, tu sais plus rien, quoi.
Ouais.
Donc c'est un peu une course dans le noir, quoi, à l'aveugle. Où où tu dois gérer pas mal de paramètres. C'est une course quand même qui réserve pas mal de surprises, de mauvaises surprises hein, sur le terrain. Enfin, il peut y avoir beaucoup d'aléas, quoi.
Ouais. Ouais. C'était comment d'ailleurs cette zone-là? C'était
il n'y a plus quasiment du début jusqu'à la fin
des sauts d'eau, la gadoue, les
et puis caillait. Enfin bref, non, c'était d'après ce qu'il disait, c'était une des plus dures. Ouais.
Ok. Et toi, tu t'es régalé.
Ouais, enfin, j'ai souffert quand même.
Hein. Ouais, tu m'étonnes. Ouais. Y a une autre course aussi sur laquelle j'avais envie de te poser la question, parce que t'es le premier sportif que je rencontre qui l'a fait. C'est l'Autileux.
Ouais.
Pour les auditeurs qui connaissent pas, c'est un swim run. Donc, des phases alternées entre de la natation et de la course à pied. L'Autileux, c'est en Norvège.
En Suède.
Ouais. Dans un paysage qui est magnifique, dans les fjords.
Ouais.
Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ce défi là pourquoi tu t'es embarqué dans ce défi un peu fou, parce que moi j'ai l'impression que ça a l'air sacré, vraiment costaud, il y a beaucoup d'abandons.
Ouais.
Même maintenant, hein, il y a toujours énormément d'abandons.
C'est pas des courses amateurs, hein. Quand tu vas là-bas, t'es quand même un minimum préparé parce que voilà, les conditions sont quand même assez dantesques.
Et tu te souviens les distances un peu
Ouais, c'est 60 à 75 kilomètres, et puis dans les 75 kilomètres, t'as une dizaine de kilomètres à nager, quoi.
Ouais. Donc, tu pars
en mode course à pied, donc avec tes baskets, t'as une petite combinaison assez légère, en néoprène quand même, parce que l'eau, elle est fraîche, elle est entre 11 et 12 degrés, quoi. Ouais. donc voilà, tu cours, et puis quand t'as des portions à nager, tu passes d'île en île, en fait, hein. C'est ça, Autilo, ça veut dire d'île en île en suédois, donc tu passes d'île en île, et donc, y a des portions que tu fais à la nage, et des portions que tu fais en courant. Donc, plus ou moins longues, hein, ça peut aller de 20 km à courir à 300 mètres. Des fois, tu fais 300 mètres, tu te remets à l'eau pour nager 100 mètres, 200 mètres, 300 mètres, 1000 mètres, 2000 mètres. Enfin, bon, tu vois, c'est un peu, tu sais jamais trop ce qui t'attend, mais bon, t'as une distance à parcourir et en course à pied et en natation. Donc, comment j'y suis venu? 2017, donc ça, c'était en 2017. Je me souviens que pendant l'hiver, j'étais un peu blessé. Je préparais les championnats du monde de trail.
Ouais.
Et un peu blessé, du coup, en bon triathlète que je suis, je me suis dit, je vais faire un peu de vélo, je vais jouer sur les entraînements croisés, sur les transferts de charge, et voilà, faire mon entraînement foncier, je vais le faire un peu plus en vélo pour me soulager un peu les blessures, ma blessure. Donc, je me mets à rouler, et vu que j'aime pas trop rouler, je fais du VTT, enfin bref. Et voilà, et durant l'hiver, ça fait 9 ans que j'ai pas nagé, mais je me dis, putain, je reprendrai bien la natte finalement, et du coup, si je reprends la natte, tu vois, je peux refaire un triathlon, pour être sympa. Un truc que j'en avais fait un petit peu quand j'étais en pleine carrière triathlon, c'était le Xterra. Xterra, c'est du triathlon, sauf que le vélo, il est remplacé par du VTT et la course à pied par du trail. Et je me suis dit, tiens, je vais refaire du trail. Je vais refaire du triathlon, je vais faire du Xterra. Si je reprends la natation et que j'ai du plaisir à nager, surtout ça, si j'ai du plaisir à retourner à la piscine. Donc, je fais une, deux séances, si tu veux, à la piscine pour voir. Et là, tout se passe bien et je me dis, bon, bah, c'est bon. Et je me dis, bon, bah, j'annonce ma saison et je dis que, voilà, et pour viser gros, je dis, bah, je veux faire champion du monde, Xterra, en fin de saison, en octobre. Donc voilà, donc ça fait un peu le buzz sur Internet, sur Facebook, tout ça. Et là, me contacte Davidos, Dada, un vieux pote de triathlon qui a fait les jeux, qui a fait 4 jeux à Londres, hein, une génération, moi je suis un peu le tampon entre ma génération triathlon et la jeune génération. Donc David me contacte, il me dit, putain, si tu veux, on peut se faire Autilo tous les deux, quoi. J'ai dit, putain, c'est génial. Allez, parce que ça se fait en binôme, on n'a pas dit.
Ouais, ça se fait en équipe pour la deux.
Et au final, voilà, du coup, on a préparé ça et c'était très sympa. C'était dur, mais c'était très sympa. Ouais.
Comment tu prépares une course comme ça? Parce que
ça a été très sommaire, donc. Moi, j'ai pas beaucoup nagé, David non plus, mais on est un ancien triathlète, on nageait quand même pas trop mal,
Ah, mais là, tu nages,
il y a 10 bornes à nager, après, c'est compliqué, froid. La natation, parce que c'est pas vraiment, enfin, pour moi, je trouve, c'est pas vraiment la natation, tu nages avec des plaquettes, tu nages avec des chaussures aux pieds, c'est dommage d'ailleurs,
t'as le droit même à un petit pool boy,
t'as le droit à un pool boy, c'est pas un petit pool boy, maintenant, t'as le droit, c'est quasiment une planche que tu mets, pour moi, c'est un peu sous-réglementé, justement, par rapport à des tas d'artifices qui font que t'as des mecs qui viennent, qui savent tout juste nager, mais bon, ils tournent les bras et ça tombe tout seul, quoi.
Ouais.
C'est un peu dommage. Mais bon, voilà, non, mais simplement, j'ai repris la natte, j'ai nagé un petit peu plus, et puis bon, avec les kilomètres que je faisais pour le trail, c'est passé, quoi.
Ok.
Ouais, ça l'a fait.
Ouais, t'as l'air de te dire que c'est normal. Moi, je pense que si j'étais sur la ligne de départ, je me ferais dessus.
Mais non, bon. Bah après, c'est dur, attention, ah, c'est dur.
Ouais. Ouais. Bah, pour les curieux, j'encourage, il y a un super intérieur sport, je crois.
Il y a eu un intérieur sport, et puis nous, on a été un sujet dans Stade 2, là.
Okay.
Un long format, ouais.
Ok, ça marche. On peut le retrouver sur.
Bien sûr, tu mets Otilo, mon nom, ou Davidos, tu le retrouves tout de suite.
Ah, bon, bah voilà, bah, je mettrai le lien dans la description du podcast.
Il vaut mieux voir celui-là, c'était une super année où on l'a fait. Okay. Les conditions étaient dantesques.
Ok, ça marche. Ah bah génial, j'ai pas vu, je le regarderai avec grand plaisir. Trop cool. Et bah écoute, on arrive un peu à la fin de l'interview. J'ai des petites questions que j'aime bien poser pour la fin. Tu peux y répondre rapidement ou les approfondir. Tu vas voir, c'est des petites questions un peu du tac au tac. Ça te dit de jouer le jeu ?
Allez.
Allez. C'est quoi une bonne journée pour toi ?
Un peu de boulot.
Un peu de boulot.
Parce qu'il faut bien manger à la fin du mois. Non, une bonne séance natation le midi. Et puis ouais, un petit footing le soir tranquille, et puis manger le soir avec mes enfants et tchatcher un petit peu de la journée. Ouais. Journée simple, mais moi je suis assez adepte des petits plaisirs simples de la vie.
Ça marche. C'est quoi ton meilleur souvenir de sport ?
Ah, il y en a beaucoup. Après, j'ai bien aimé. C'est un bon souvenir, ça. J'en ai parlé tout à l'heure, là, au début, là. Une de mes premières perfs probantes, c'était un podium sur un championnat de France. Ça paraît tout con au vu de mon palmarès, mais un podium sur un championnat de France, alors que j'étais encore tout neuf dans la discipline. Ce jour-là, il y avait ma mère qui était aux anges. J'avais tapé pas mal de bons mecs à l'époque, et ouais, là, tu sens que t'as un déclic et tu te dis putain, c'est bon, je vais pouvoir faire quelque chose dans ce sport, tu vois. Et là, comme si d'un seul coup, t'avais une porte qui s'ouvrait et tu disais, ça y est, j'y suis, quoi.
Okay.
Je suis prêt, j'y vais, quoi. Okay. C'était bon.
À l'inverse, est-ce que t'as un pire souvenir ?
Ouais.
Oula.
Non, c'est une course pourrie. C'est championnat du monde à Madère en 2003, donc je suis à l'apogée de ma carrière, je suis super fort, je suis vraiment pressenti pour aller au jeu, je suis numéro un français, enfin bon, j'ai gravi tous les échelons, tout me réussit, voilà, j'ai plus qu'à aller faire cette perf là-bas, et ce jour-là pour 4 secondes je loupe le premier pack à sortie de l'eau, tu vois, et je me retrouve tout seul, et là c'est le scénario de merde, quoi. Je rentre jamais sur le groupe, voilà, je pose le vélo, je sais pas combien, et je finis plus de 30e, et voilà, et là je sais que c'est la fin de l'ambition des jeux, c'est terminé, voilà, tout s'écroule, quoi. Alors, tout s'écroule ce jour-là, tu perds 4 ans de ta vie, tu te dis putain, ouais, et là c'est dur.
Ouais. Ouais. Tu rebondis comment ?
Ah, je rebondis comment ? Bah, tu regardes des jeux à la télé. Non, je rebondis comment ? Je sais pas, j'ai toujours su rebondir de toute manière. Donc voilà, un peu l'honneur, l'envie de démontrer que voilà, j'étais là, je gagne la Coupe du Monde, reprise de la saison, c'est moi qui gagne la Coupe du Monde. Quoi.
Ouais.
Mais pas emmené, mais ouais, je suis là, quoi.
C'est quoi la meilleure ambiance de sport que t'aies vécue ?
Ah, il y en a des tas. Je sais que, tu vois, tout à l'heure, tu me citais Francky, quoi, mais c'est vrai qu'on a fait avec Francky, avec Fred Belaube, avec Johan Vincent, avec Guillaume de Chavannes, voilà, on a fait Sébastien Berlier, enfin j'en passe. Il y a eu toute une génération de triathlètes là où on se retrouvait, on était à Sartrouville dans le même club et on se retrouvait pour faire les grands prix. C'est vrai qu'on nous appelait la Green Team parce qu'on avait des tenues vertes et il y avait une super ambiance et on était super contents de se retrouver le week-end.
Ouais.
Et ouais, d'aller perfer ensemble, et en plus on était super fort, on gagnait tout, voilà, mais vraiment relax, c'était du bon temps et on déconnait bien, c'était sympa, ouais.
Ok,
c'est des bons kiffs, ouais.
Il y a un sportif que t'admires un peu plus que les autres?
Ouais, si j'en dis un, et personne le connaît, mais
c'est pas grave, justement.
Ouais, j'aimais bien, c'est ma jeunesse, donc ça remonte. C'était Robert Territeo.
D'accord.
Ouais, tu connais, non, c'est un funboarder, donc des années 90.
Ok.
Et c'était un gars, il faisait des choses exceptionnelles, quoi. Dès qu'il prenait une planche, un surf ou je ne sais quoi, il faisait des trucs exceptionnels, quoi. Et voilà, il le faisait toujours d'une manière très simple, très cool. Ouais, il avait une bonne gueule. J'aimais bien, je me disais, putain, j'aimerais bien lui ressembler, quoi. Et puis, il était toujours dans des endroits super, enfin bref.
Ok. Et
ouais, il existe toujours.
Ok, ça marche. Ouais. Bah, je regarderai. Écoute, je suis très curieux. Ouais. Tu te vois où dans 10 ans?
Tahiti, Polynésie.
Ok. Bon choix. Ouais. apparemment, fais gaffe, hein, parce que si on y va, on n'y revient pas.
C'est ça le problème. C'est que j'y suis allé au mois d'avril dernier.
Ah ouais. Ouais, donc là, tu vois, effectivement, tu sais que t'as pas.
Voilà, j'aurais jamais dû y aller là-bas.
Bon, bah, avant de partir, tu m'envoies un petit message pour me prévenir.
Je mettrai ça sur les réseaux, t'inquiète.
Ça marche. Est-ce qu'il y a encore des choses qui te font peur?
Dans le monde du sport?
Peu importe.
Ouais, peur, oui, bien sûr. Et après, on a beaucoup parlé de sport, mais après t'as aussi des phénomènes de société. Je pense un petit peu à notre planète là qui est un peu à bout de souffle. Et effectivement, moi j'ai fait une partie de mon cursus universitaire et c'est des choses que je sais depuis 30 ans, quoi. Et,
ouais.
Et voilà. Et quand on peut s'imaginer un scénario catastrophe qui pourrait être terrible pour nous tous, quoi. Donc ouais, ça fait un peu peur, quoi. Tu te dis, c'est des choses que tu maîtrises pas, parce que quand la nature elle reprend ses droits. Là on passe à autre chose, quoi. Je veux dire, c'est plus le monde des bisounours, quoi. Donc ça fait un peu peur, ouais, sachant que quand t'es père de famille, tu te dis merde.
Ouais, qu'est-ce qu'on laisse à nos enfants,
et il va y avoir des vrais problèmes à régler dans les années à venir si on rectifie pas le tir, ou même c'est déjà trop tard, hein, tu vois ce que je veux dire. Donc ouais. Donc ça fait un peu flipper, parce que je pense qu'on a du mal à s'imaginer, et voilà. Quand ça va faire mal, ça peut vraiment faire mal pour tout le monde, quoi.
Ouais,
ouais, ça fait un peu peur. Après le reste, je sais pas rien.
Ouais. est-ce qu'il y a un film ou un livre que tu conseilles à tout le monde?
Ouais.
Vas-y.
La vie s'est arrêtée après le Grand Bleu.
Après le Grand Bleu?
Ouais. Ah, il connaît pas. Tu connais pas?
Bien sûr que je connais Jean Reno. tu sais que mon tout premier invité, c'était Arthur Guérin, qui est triple champion du monde d'apnée.
Ouais.
Et lui, c'est le film qui l'a inspiré.
Grand
Bleu.
Ouais.
Ok, Grand Bleu. Tu vois, c'est la deuxième fois qu'il est mentionné sur ce podcast.
C'est normal, c'est le plus beau film au monde.
Ouais. Et d'ailleurs, j'oublie son nom à chaque fois. L'acteur qui joue.
Jean-Marc Barr.
Exactement. Et il habite juste à côté de chez moi.
D'accord.
Et donc je le vois de temps en temps boire un café dans le même café pendant que moi je suis en train de travailler.
Ouais, c'est cool.
Et il discute. Donc
tu lui diras s'il veut faire un tour de Fiat 500 rouge, j'en ai une.
Ça marche, je lui montrerai pas. Est-ce que si tu pouvais être une petite fourmi,
ouais,
et que tu pouvais te glisser dans ton oreille la veille de ta course justement des championnats de France, et que tu pouvais te donner un petit conseil, qu'est-ce que ça serait?
Relativiser, quoi. Je veux dire, le sport, c'est que du sport, quoi. Donc il faut vraiment ça c'est un peu l'expérience, mais voilà, ressortir le positif et l'essentiel de tout ça, quoi. De se dire moi j'ai des enfants qui sont en âge, et j'ai des enfants qui font du sport aussi et qui commencent à faire un peu de haut niveau, et effectivement des fois on donne une importance mais telle au sport qui est ridicule, quoi. Le sport, c'est que du sport, ça doit être que du plaisir, quoi. Donc faut se mettre en tête que demain il y aura une course importante, c'est important certes, ça engage peut-être une sélection, ça engage peut-être un titre, ça engage mais c'est que du sport, et ça mérite pas de faire des compromis sur autre chose. Je pense à la santé, à la famille, à des tas de choses, quoi.
Donc, okay.
Le sport à sa place, quoi.
Exactement. Voilà. Comment est-ce qu'on te suit? Où est-ce que je dis aux gens de te suivre?
Je suis assez nul, mais c'est pas ma génération. Mais Facebook, j'ai le maximum d'amis, là, donc je peux prendre plus personne, sinon je suis obligé de virer du monde. Après, j'ai une page, mais j'alimente pas trop parce que j'ai jamais pris l'habitude de le faire, mais je fais un petit peu. Après, Insta, je mets de plus en plus sur Insta, j'aime de plus en mieux, ouais, Insta, ouais.
Ça marche. Bon, je mettrai ton compte du coup dans les notes.
Ouais.
C'est quoi tes projets là pour les ans qui arrivent?
T'es bien assis là.
Ouais. tu m'as dit, et en plus c'est une des premières choses que tu m'as dit tu vas voir cette année, je sais pas dans quoi je me suis embarqué.
2020, c'est teaser, terrible.
Donc là, j'attends avec impatience.
Je pense que c'est le bouquet final. Je sais pas si je vais survivre à l'année 2020. Dans l'idée, avec deux potes d'enfance du triathlon. Donc on a commencé le triathlon ensemble il y a 25 ans avec des vrais potes, quoi. C'est de faire sur l'année, tiens-toi bien, sur l'année, les 10 courses les plus dures au monde dans le monde de l'ultra, dans 7 disciplines différentes.
Oula, alors.
D'accord, alors je te
va
licite.
Nous expliquer.
la première course, c'est la grande traversée du Jura. Donc c'est du ski de fond, il y a 200 km. Après, il y a la Pyramenta. La Pyramenta, c'est une course, la plus grande course au monde, enfin, qui fait partie des plus grandes courses au monde de ski d'alpinisme. C'est sur 4 jours. Voilà, c'est dans les Alpes. Après, il y a le Cap Epic. Cap Epic, c'est en Afrique du Sud. C'est la plus grosse course de VTT au monde. D'accord, ça dure une semaine et en gros, t'as une centaine de bornes par jour.
C'est plus gros que le Roc d'Azur?
Ouais, c'est sur une semaine. Là.
Ah, c'est sur une semaine.
Et ouais, c'est largement comparable en termes de
difficulté.
Non, pas de difficulté, mais
de monde.
De monde.
Ouais.
Hein, c'est connu dans le monde entier. Ça fait partie des courses plus dures, enfin les plus connues dans le monde. Après, il y a le Marathon des Sables.
Ok.
Voilà.
C'est bien présente plus.
Plus. Après, on comptait faire l'Altriman. Donc, c'est un triathlon, on est le plus dur au monde, avec Embrun, dans les Pyrénées. Il y a Embrun, donc au mois d'août. Après, il y a l'UTMB, l'Outroute dans l'Orne. L'Outroute, c'est une course de vélo dans les Alpes, où en gros, c'est une étape du tour de montagne tous les jours, pendant une semaine.
Ok.
On enchaîne avec l'UTMB, 170 km autour du Mont Blanc. Othilo.
Ok.
Voilà, on a parlé tout à l'heure. Et la dernière, c'est le Grand Raid, la Réunion.
Ok.
Voilà, Diagonale des Fous.
Voilà. Wow, et tu veux faire tout ça en un an ?
Ouais.
Ok, bon, alors je crois qu'on va se régaler. Donc là, on a un gros scoop.
On a fait l'annonce officielle, enfin plus ou moins officielle. Il y aura une conférence de presse bientôt, mais ça a commencé à sortir un petit peu dans les médias, là. Donc voilà, on a lancé le projet et là pour le coup, on devrait être bien suivi par les caméras de France TV, Stade 2, tout le sport, tout ça. Donc normalement, il y aura du sujet, je pense.
Trop cool. Ouais. Bah écoute, je suis content d'avoir l'info et écoute, j'encourage tous les auditeurs à aller suivre ça de près parce que
le projet s'appelle XX Team.
XX Team.
Donc Zephy Extreme Team. Okay. Zephy, c'est le sponsor principal, Extreme, parce que c'est Extreme, et Team, parce que c'est par équipe. Enfin, par équipe. C'est entre potes, quoi.
Ok. Ouais. Et du coup, vous êtes deux, c'est ça?
On est trois.
Trois?
On est trois.
Il y a
l'histoire, en fait. Donc, on est trois potes depuis hyper longtemps et on a commencé le triathlon ensemble. Et on a eu des parcours vraiment différents. Donc, on va dire, moi, j'ai un peu réussi dans le sport. Voilà. J'ai mon pote Pierre Salet là qui est donc lui il a réussi on va dire dans le monde scientifique, donc c'est un grand référent là dans l'antidopage.
OK.
Voilà, et Guillaume Antonietti lui il a bien déroulé, il a fait Sciences Po, tout ça, il a monté des boîtes, il est devenu un entrepreneur respecté, quoi.
Ok. Voilà, ça marche.
On a eu des trajectoires différentes. On est toujours resté potes. Port. Et voilà, le point commun, ça a toujours été le sport.
Ok. Voilà. Ok. Ouais, bon, bah, génial. Écoute, super info. Je suis content d'avoir de pouvoir suivre ça. Je vais regarder ça de près parce que franchement, je pense que vous êtes des fous.
Non, on est dingue. Non, c'est vrai que c'est un truc un peu fou là quand même. Et tout ça sans changer une ligne à notre vie quotidienne. C'est-à-dire boulot, famille, etc. Donc là, c'est d'autant plus fou parce que voilà. Et l'idée aussi de faire passer le message, c'est des gens ordinaires, hein, parce qu'on a une vie ordinaire. Hein. Moi, t'as vu, je sors du boulot, je suis là, j'ai mes téléphones de boulot, ça sonne. Enfin, tu vois.
Ouais.
Et voilà, c'est de dire que on peut se lancer des défis, des challenges. Alors, ça peut être tout con, hein. Ça peut être de faire les 10 km du truc. Et puis, c'est vrai qu'on se dit tout le temps, ouais, putain, non, c'est trop dur parce que j'ai ma vie, j'ai ceci, j'ai cela. Et au final, voilà, nous, on veut dire que on peut faire des choses exceptionnelles tout en étant des gens normaux et voilà. Et tout ça en s'écoutant un petit peu, en maîtrisant ses allures, en faisant ce qu'il faut, sur l'hygiène de vie, on arrive à aller loin et réaliser ses rêves.
Ok.
Ouais.
Bon, bah cool. Bah écoute, j'ai vraiment hâte. Si tu veux, on se donne rendez-vous dans un an quand vous allez terminer le défi.
Ça marche. Ça prendra rendez-vous là, parce que.
Ouais. T'inquiète. Attends, je suis déjà parmi les trois meilleurs podcasts de France. T'inquiète qu'après j'aurai du relais, du pedigree.
Je te le souhaite. Ouais.
Bon, je termine avec la dernière question.
Question bonus.
Ouais. Quel est le sportif que tu me recommandes d'aller interviewer, un copain à qui tu peux donner le micro.
Un mec inspirant.
Ouais, dans ton réseau.
Tiens, bah, va voir, je vois que t'étais bien branché triathlon, que tu connais un petit peu le triathlon, et toi, j'étais surpris, tu connaissais pas Fred Melhomme.
Bah, écoute, je suis la nouvelle génération.
Ouais, bah, pourtant, il est pas si vieux c'est, que ça.
Il est un an moins que Vincent Louis, tu vois, donc j'ai été biberonné.
Ouais. Si tu demandes à Vincent Louis, il le connaît bien, lui.
Ah, ok, ça marche.
Là, on va voir, tiens, Fred, ça serait pas mal, ouais.
Ok, ça roule. T'as son contact?
Ouais, je vais tout te donner.
Allez, ok. Hein. Trop cool. Bon, bah écoute, avec grand plaisir. En plus, je sais que j'ai énormément d'auditeurs qui font du tri, comme moi.
Ouais, ils seront contents d'avoir des nouvelles de Fred. Non, vraiment.
Ok,
c'est
trop
un
cool.
Bon gars qui a laissé une super image dans le milieu du tri. Ouais, et ouais, c'était. Bah, on surmet le petit prince du triathlon. Donc, champion du monde à 20 ans.
Ça, on dit
là. Voilà, il a un palmarès de ouf. Et très simple, comme tous les triathlètes, comme tu peux voir, tu vois.
Ok, super, bah génial. Écoute, je suis content de la reco, merci beaucoup. Bah écoute, ouais, je vais terminer là-dessus. Merci beaucoup d'avoir,
je t'en prie, merci à toi.
De m'avoir accordé du temps, c'était vraiment génial. Et bah écoute, je recommande encore une fois les auditeurs à te suivre de plus près pour
ces défis.
Allez,
rendez-vous l'an prochain.
Allez, salut.
Allez, ciao.
Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, c'est sûrement que l'épisode vous a plu. Donc n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous et à vous abonner pour ne louper aucun épisode. J'ai mis tous les liens dans la description, donc n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Et sinon, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine interview. Ciao!
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.